Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports, nous ferons un point sur la campagne électorale en Australie et Grégory Pless reçoit Patrick Halloween, historien passionné. Et enfin Audrey nous parlera d'ingrédients autochtones australiens dans sa chronique à table. Mais tout de suite, c'est votre journal. Les titres de ce mardi 3 mai, le Premier ministre Scott Morrison rejette l'idée selon laquelle une hausse des taux d'intérêt pourrait lui porter préjudice le jour du scrutin. Un nouveau rapport du Climate Council nous informe que des conditions extrêmes pourraient menacer une maison australienne sur 25 et l'évacuation d'une centaine de civils compliquée dans l'est de l'Ukraine le week-end dernier. Les autorités espèrent pouvoir continuer dans les prochains jours à envoyer des personnes vers Zaporizhzhia, au nord-est du pays. Le Premier ministre Scott Morrison rejette l'idée selon laquelle une hausse des taux d'intérêt pourrait lui porter préjudice le jour du scrutin en affirmant que les Australiens comprennent l'impact des pressions inflationnistes mondiales. La Banque de réserve devrait aujourd'hui annoncer une hausse des taux d'intérêt, ce qui n'était pas arrivé depuis 11 ans. Scott Morrison, qui démarre sa journée de campagne à Melbourne, a déclaré que les électeurs comprenaient les pressions inflationnistes et soutiendraient le parti qu'ils considèrent comme le meilleur pour gérer l'économie du pays. Lundi, interrogé sur la hausse des taux et notamment sur le fait que cela pourrait avoir un impact sur sa victoire aux élections, M. Morrison a répondu en accusant les journalistes de regarder à travers un prisme uniquement politique.
Well, I think I've set out the position pretty clearly about what the macroeconomic environment is that is impacting on rates in Australia. I mean, I also didn't claim credit for interest rates going from 1.5% to 0.1%.
Pendant ce temps, le porte-parole du Trésor du Parti travailliste, Jim Chalmers, a déclaré que le Premier ministre voulait prétendre qu'il n'avait rien à voir avec la hausse du coût de la vie, déclarant à la chaîne Seven qu'il ne pense pas que quiconque serait surpris par la hausse des taux d'intérêt. Un nouveau rapport du Climate Council indique que des conditions météo extrêmes pourraient menacer une maison australienne sur 25 et devenir non assurable d'ici 2030. Ce chiffre évolue et passe à un foyer sur 10 pour certaines des zones australiennes les plus touchées, notamment des parties de Brisbane, de la Gold Coast, du Grand Shepparton, de Ballina et de Port d'Adélaïde. L'analyse menée par Climate Valuation a examiné des centaines de millions de points de données en Australie pour constituer une carte des risques climatiques. Les Australiens peuvent utiliser cet outil pour rechercher les risques d'incendie, d'inondation et de vent extrême par région, zone de gouvernement local ou électorat, et ce sur plusieurs décennies. Direction l'Ukraine où les forces russes poursuivent leur offensive à l'est sur le Donbass. Ce week-end a été marqué par l'évacuation d'une centaine de personnes du complexe de la Syrie de Zovta à Mariupol, ville assiégée et presque intégralement détruite par les bombardements russes. Les premiers évacués sont attendus à Zaporizhzhia. Les opérations devraient se poursuivre et profiter du cessez-le-feu temporaire négocié par l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge. Mais cela s'annonce compliqué. On écoute Vincent Soriot pour RFI.
Le processus d'évacuation est très difficile. C'est ce que déplore le maire de Mariupol, Vadim Boychenko, qui s'inquiète en particulier des centres de filtrage mis en place par l'armée russe. Car chaque civil souhaitant quitter la ville doit passer par ces points de contrôle, faire la queue, s'enregistrer, fournir ses documents d'identité, des détails sur son environnement personnel. Et ce dispositif représente, selon les autorités ukrainiennes, à la fois une humiliation pour ces familles qui ont déjà passé des semaines sous terre du fait de l'offensive lancée lancé par Vladimir Poutine, mais aussi un moyen de pression pour les dissuader de rejoindre le territoire ukrainien. La petite centaine de personnes qui, elle, a pu quitter hier l'usine Azovstal doit arriver à Zaporijjia dans la soirée. Ces personnes y sont attendues par l'UNICEF et plusieurs représentants d'organisations internationales. Il resterait, selon la vice-première ministre ukrainienne, des centaines d'individus encore bloqués sur place. Impossible de dire à ce stade quand elles auront l'occasion de partir, car selon l'armée ukrainienne, les bombardements ont repris immédiatement après la fin de l'opération d'évacuation mise en place ces derniers jours.
Sur le terrain, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes près de l'île aux Serpents en mer Noire. Cette île est devenue un symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Moscou n'a pour le moment pas confirmé l'information. La crainte des pays frontaliers situés entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie, est en première ligne dans ce conflit. Sa région séparatiste de Transnistrie, où des incidents se sont produits ces derniers jours, est soutenue par la Russie qui a déployé des hommes et des stocks d'armes. Les Moldaves craignent d'être la prochaine cible de la Russie, dont elle est par ailleurs très dépendante pour ses approvisionnements en énergie. On écoute Juliette Garbrand de RFI qui a recueilli le témoignage d'un père de famille moldave.
Vitali Mihalash a 42 ans. Il est revenu au village le temps d'une réunion de famille. Lunettes de soleil griffées sur le front, il se souvient du début de la guerre. Il était chez lui, dans la capitale, Chisinau.
Le plus dur, ça a été les deux premières semaines. Le 24 février, je n'ai pas dormi. J'ai écouté le discours de Poutine et Zelensky. Au départ, le plan de Poutine prévoyait de s'en prendre à nos frontières.
Désormais, il ne croit pas trop à une extension du conflit. La Moldavie et la Transnistrie feront tout pour l'éviter, selon lui.
En Transnistrie, la population comme les autorités ont peur. Elles voient ce qui se passe en Ukraine. Et puis 90% environ de l'économie est liée à la Moldavie et à l'Ukraine, notamment pour les affaires de Viktor Gushan et son puissant conglomérat shérif.
Le quadragénaire redoute toutefois la propagande du tsar Poutine, comme il l'appelle. En Moldavie, les chaînes de télévision russes ont parfois plus d'audience que les chaînes locales ou occidentales. Il s'inquiète aussi de l'impact économique et social du conflit, impact dont il est directement témoin. Il travaille dans le BTP.
L'approvisionnement en matières premières est très touché. Certaines n'arrivent plus du tout. Les prix ont été multipliés par 2 ou par 3. Et le coût de production de notre ciment a doublé.
C'est une conséquence de l'envolée des prix du gaz, autre levier de la Russie sur la Moldavie. Le pays dépend presque entièrement de Gazprom pour ses approvisionnements. Juliette Gerbrand, Cherpeny, RFI.
Les responsables allemands se disent prêts à soutenir un embargo immédiat de l'Union européenne sur le pétrole russe. Cette décision marquerait un tournant majeur venant du plus important client énergétique de la Russie qui envisage de permettre à l'Union européenne d'imposer une interdiction en seulement quelques jours. Les exportations énergétiques de la Russie, dont c'est sa principale source de revenus, ont jusqu'à présent été largement affranchies des sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré qu'ils étaient prêts à appliquer des sanctions.
Germany is not against an oil ban on Russia. Of course, it is a heavy load to bear, but we are ready to do that. It would help if we have some weeks or months more time to do all the preparations, meaning the technical preparations. So we have to find some ships carrying oil from west to east. We have to prepare the harbors. We have to prepare the pipelines. So time is helpful. But I think other countries have bigger problems.
Les proches de la famille ont fait part de leur tristesse suite à l'assassinat il y a 34 ans de Scott Johnson. Scott Johnson avait été tué par le simple fait d'être homosexuel et Scott White a plaidé coupable du meurtre de Monsieur Johnson et de l'accusation visant la sexualité de la victime. Une enquête antérieure a conclu que la mort de Monsieur Johnson était un suicide, mais l'affaire a été réouverte en 2012. Le tribunal rendra son verdict et prononcera une peine dans la journée. Le frère de la victime, Steve Johnson, a déclaré que la comparution devant le tribunal le lundi était l'occasion de regarder l'agresseur dans les yeux.
Our family certainly wants to see justice and we want Mr. White to be punished. Whether it's a few years or many years isn't going to make that much difference to us. We think the statement's been made.
Apple pourrait être condamné à une amende à la hauteur de 10% de son chiffre d'affaires annuel pour son système de paiement mobile, après que la Commission européenne ait accusé la marque à la pomme d'imposer Apple Pay sur iPhone et iPad. Lundi, la Commission a envoyé un dossier d'accusation à Apple et a déclaré que ses pratiques anticoncurrentielles remontaient à 2015, lors du lancement d'Apple Pay. Margaret Vestager, chef de l'antitrust de l'Union européenne, a déclaré qu'Apple aurait restreint l'accès à la concurrence et ainsi proposer d'autres modes de paiement sans contact sur les appareils Apple. De son côté, Apple justifie les restrictions d'accès par son souci d'assurer la sécurité de ses clients.
The preliminary conclusion that we reached today relates to mobile payments in shops. By excluding others from the game, Apple has unfairly shielded its Apple Pay wallet from competition.
Et on passe tout de suite au sport. L'UEFA a rendu son verdict et n'autorisera pas la Russie à participer à l'Euro 2022 féminin cet été, ainsi qu'au prochain match de l'UEFA. La candidature de la Russie pour accueillir l'Euro 2028 ou l'Euro 2032 est désormais impossible compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lundi, l'UEFA a annoncé que le Portugal, qui a perdu contre la Russie en barrage par ailleurs, les remplacerait à l'Euro 2022 en juillet prochain. L'interdiction imposée au club signifie qu'il n'y aura pas d'équipe russe en Ligue des champions masculines et féminines et en Ligue Europa en 2022 et 2023. La météo de ce mardi à Perth, ciel partiellement couvert, 23 degrés au programme de cette journée. Adélaïde, risque d'averse en fin de journée et 23 degrés au thermomètre. Melbourne, journée marquée par des alternances de nuages et d'éclaircies. Attention au vent et seulement 21 degrés. Hobart, ciel couvert pour un maximum de 22 degrés. Canberra, le brouillard a laissé place ce matin au soleil et 19 degrés pour un maximum cet après-midi. Sydney, journée placée sous le signe du soleil et 24 degrés. Brisbane, alternance de nuages et d'éclaircies pour un maximum de 25. Cairns, averse prévue dans la journée et 29 degrés. Et Darwin, là il va faire le plus chaud, journée agréable sur le soleil et 35 degrés. Le rappel des titres de ce mardi 3 mai, le Premier ministre Scott Morrison rejette l'idée selon laquelle une hausse de taux d'intérêt pourrait lui porter préjudice le jour du scrutin. Un nouveau rapport du Climate Council nous informe que les conditions extrêmes pourraient menacer une maison australienne sur 25 et l'évacuation d'une centaine de civils compliquée dans l'est de l'Ukraine le week-end dernier. Bon appétit avec SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
On retrouve tout de suite l'infosport avec Jean-Noël Ducasse, puis le titre de Julien Doré, L'arme fatale.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot. En Ligue 1 en France, la débâcle de Marseille face à Lyon, 3-0. Karl Toko Ekambi a marqué le troisième but pour l'OL. Reportage de Hugo Moissonnier pour RFI.
L'OL s'adjuge le choc de la 35e journée de Ligue 1 sur le terrain de l'OM. Victoire large alors que Lyon, 7e, est beaucoup plus bas au classement que Marseille. 2e, 3-0 au score final et donc pas mal de problèmes de peau si j'ai bien suivi. Pour les supporters marseillais, Karl Toko Ekambi, la vedette du Cameroun et de l'OL ces derniers mois, auteur du 3e but de son équipe à quelques minutes de la fin. C'est sa 12e réalisation en Ligue 1 cette saison, la 5e sur ses 4 derniers match et son équipe peut toujours rêver d'Europe la saison prochaine.
On savait qu'il fallait gagner ce soir pour espérer quelque chose en fin de saison. On a su le faire, je pense qu'on l'a bien fait, on a été froid, on a joué nos occasions à fond et on a su les mettre au fond. On veut gagner tous les matchs, après voilà, on sait que ça dépend pas des autres, ça dépend de nous. On veut gagner tous les matchs et on verra où on sera en cette 38e journée. En tout cas, notre objectif, c'est gagner tous les derniers matchs et on est bien lancé pour le faire. Maintenant, il va falloir être costaud mentalement pour réussir cet objectif.
Karl Toko Ekambi au micro de Prime Vidéo. Marseille ne possède plus que 3 points d'avance sur Rennes dans la course à la 2e place et donc à la Ligue des Champions.
En Angleterre, 35e journée avec quelques résultats. Duel à distance entre Manchester City et Liverpool. Un seul point les sépare au classement. Analyse d'abord du match entre Manchester City qui a battu Leeds 4-0. Philippe Auclair pour RFI.
Un match qui a été plus compliqué qu'il y paraît quand on voit le score final, d'autant plus compliqué pour Manchester City que bien évidemment Pep Guardiola avait en tête le match retour de demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, ce qui fait qu'il avait procédé à 5 changements. Mais malgré quelques petites frayeurs contre une équipe de Leeds très entreprenante, ma foi, Manchester City a petit à petit pris le contrôle de cette rencontre pour finalement l'emporter par 4-0. Rodri de la tête, Nathan Ake suite à un corner de Foden, Gabriel Jesus qui marque une nouvelle fois, 6 buts en 4 matchs en Première Ligue. Peut-être que c'est le fait qu'on l'associe maintenant à des clubs comme Arsenal, qu'on le voit à partir de Manchester City qui l'a fait se réveiller en cette saison. Et enfin, Fernandinho, tout un symbole qui aura 37 ans dans quelques jours et qui donc parafait cette victoire de Manchester City. 4-0 à Leeds United. C'était un déplacement compliqué, mais parfaitement maîtrisé finalement par les hommes de Pep Guardiola.
Et puis Liverpool a battu Newcastle 1-0. À nouveau, l'analyse de Philippe Auclair pour RFI.
5 changements dans l'équipe de Jürgen Klopp par rapport au match, par rapport à l'équipe qui avait gagné 2-0 contre Villarreal en Ligue des Champions. Et Naby Keita, que l'on voit de plus en plus au passage dans cette équipe de Liverpool, et qui a été plus qu'à la hauteur, qui a été un des meilleurs joueurs vraiment de cette équipe des Reds, à la 19e minute, son 4e but de la saison, un but absolument crucial, après quoi Liverpool a pu contrôler, maîtriser cette rencontre d'une façon que je dirais presque admirable face à un Newcastle qui était pourtant engagé dans une très très bonne série. Jürgen Klopp, c'était un scénario presque idéal. La victoire à l'extérieur sur un terrain compliqué, il a pu faire se reposer ses joueurs, dont Thiago, dont Fabinho, dont Trent Alexander-Arnold et évidemment Mohamed Salah. Donc c'est un très très gros résultat pour Liverpool qui maintient la pression sur Manchester City, seulement un point de retard sur les Citizens, mais à la différence de but, c'est extraordinaire quand même, la différence de but de Manchester City c'est plus 63, ce qui est quand même assez honorable, on dirait ça comme ça, et la différence de but de Liverpool, plus 64, autant dire que c'est extraordinairement serré, qui craquera entre les deux? J'avoue que c'est une devinette à laquelle je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui.
On passe au foot féminin. Focus sur Christine Mani, la Camerounaise de 37 ans qui va disputer la finale de la Coupe de France le 15 mai prochain avec son club 10h face au Paris Saint-Germain. Hugo Moissonnier et David Kalfa pour RFI.
Il me demandait même ça va passer où, il faut qu'on regarde et tout. Il faut que tu nous donnes les infos, je veux savoir. Oui, tout le monde, on m'encourage. Ceux qui sont au Cameroun, ils vont regarder. Ceux qui sont ici en France viendront à Dijon.
Évidemment que les Camerounais regardent, suivent, encouragent celle qui a longtemps porté leur brassard et leurs espoirs. Celle qu'on compare parfois à Rigobert Song. Christine Mani, bientôt 38 ans, capitaine du club 10h, au discours carré comme sa carrure et posé comme son caractère.
Malgré mon expérience, c'est quelque chose de grandiose. Jouer une finale de Coupe de France, mais il ne faut pas juste qu'on s'enflamme.
Travailleuse, sérieuse.
Ophélie Meirou, la coach de Christine Mani, à Ise.
Son CV parle pour elle, qui est écoutée, qui est respectée. Des joueuses comme ça, j'aimerais en avoir plusieurs dans mon effectif.
Effectivement, les parcours, comme celui de Christine Mani, sont rares. Jeux olympiques de Londres, mondial 2015, mondial 2019, des médailles glanées en Coupe d'Afrique comme aux Jeux africains, une expérience qui sera précieuse le 15 juin contre Paris.
Avec la sélection nationale, je me rappelle en 2015, on avait joué le tenant du titre, le Japon. C'était impressionnant pour nous à cette époque. On est arrivé sur le terrain, on a tellement pris du plaisir à jouer, on avait perdu que 2-1.
Christine Mani préfère l'amour du jeu, c'est même le secret de sa longévité.
C'est parce que j'adore le foot, ça me donne envie de continuer. Jusqu'à présent, mon corps il me permet de continuer, alors pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent souvent de mon âge et tout, même dans les réseaux, on me dit faut arrêter, c'est plus de ton âge, t'as vieilli et tout. Mais moi je m'en fous. Alors je me donne les moyens, je serai encore sur le rectangle vert.
Christine Mani n'a plus joué avec le Cameroun depuis 2019, alors que son pays disputera la CAN cet été.
Honnêtement, mon meilleur souvenir, c'est notre première qualification en Coupe du Monde 2015, Canada 2015. Quelque chose de fou. Je vous ai dit, je joue encore, mon corps me permet de jouer, donc je suis toujours disponible.
Un mot de judo pour vous dire que le championnat d'Europe en Bulgarie a pris fin le week-end dernier, dimanche. Et on revient sur la performance de la France avec Hugo Moissonnier pour RFI.
Et 8 médailles en tout pour la France, exactement. 2 en argent, 3 en bronze, 3 en or. Le plus précieux métal pour Roman Dico, notamment intouchable chez les plus de 78 kilos. Troisième titre de championne d'Europe pour elle en carrière à seulement 22 ans. Succès hier en finale devant l'israélienne Raz Hershko par Ippon. Le dénouement heureux d'une journée compliquée et stressante.
Les filles précédentes, je les avais jamais eues en compétition, donc j'ai pas forcément de repères en fait sur elles. Donc c'est forcément un peu plus compliqué. Et je pense que j'avais le temps de traiter un peu le terrain. Et j'étais un peu stressée aussi de me dire est-ce que je vais perdre aujourd'hui. C'est vrai que c'est un stress malheureusement quand on est leader de catégorie qui est là. Et une fois arrivé en finale, je pense que je me suis dit Romain, c'est bon, t'as ta médaille européenne, lâche les chevaux et juste éclate-toi en fait, prends du plaisir sur le tapis et fais tomber. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'étais dans une dynamique différente. Le stress était passé, j'étais médaillée assurément et je me suis juste lâche les chevaux et c'est parti.
La championne française de judo, Romain Dico.
Un mot de cyclisme pour vous dire que le Tour du Bénin de 2022 démarre ce mardi. Présentation de Tom Rossi et de Félix Soundé Peperipé pour RFI.
La grande Angélique Kidjo nous emmène au Bénin, sa ville natale. Ouida est sur le parcours du 17e Tour du Bénin. Départ mardi à Boukoumbé, dans le nord-ouest du pays. Arrivé dimanche 8 mai à Cotonou. Près de 750 km au programme pour les 13 équipes engagées. Parmi elles des européennes, parce que le Tour du Bénin change de dimension cette année. Il rentre dans le giron de l'Union Cycliste Internationale, de quoi le rendre encore plus populaire. Présentation de Félix Soundé Peperipé à Cotonou.
Huit pays africains plus le Bénin et 4 nations européennes animeront la course. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme et directeur général du Tour, Romuald Hazoumet, précise.
France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria et puis le Maroc. Voilà, il y aura environ 77 coureurs, ce qui est beaucoup. Le Bénin présente 2 équipes, une équipe A, une équipe B.
Comment se sont préparés les coureurs béninois? Seront-ils à la hauteur de l'événement? Leur entraîneur, Papou N. Auchan, rassure.
On s'est préparé comme il faut, on était ouvert à Porto-Novo depuis presque un mois. Les coureurs sont en jambes. D'accord que le tour ne sera pas du tout facile parce que nous avons les champions d'Afrique qui seront là. Les meilleurs coureurs de l'Europe aussi seront au rendez-vous.
Tennis, après Novak Djokovic, c'est au tour de Rafael Nadal de critiquer les organisateurs de Wimbledon sur la décision d'exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses cette année. Rafael Nadal.
Muy injusto de cara a los jugadores, de cara a mis compañeros, evidentemente, no, en ese sentido, pues...
It is very unfair for the players, for my colleagues. There is little they can do. What fault is it of theirs what's happening at the moment with the war? In that sense, as a teammate, I feel very sorry for them, and I wish it wasn't like that.
Lo siento muchísimo por ellos y ojalá no fuera así.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Passez un excellent moment avec SBS, votre programme en français. Tout de suite, le point sur les élections fédérales en Australie avec Jean-Noël Lucas. Et comme promis, on va s'écouter ensemble. Louise Attac, je t'emmène au vent.
Les élections fédérales en Australie, un dossier de SBS News. Le chef de l'opposition, Anthony Albanese, a lancé la campagne électorale du Parti travailliste à Perth dimanche dernier en promettant de fournir des services de garde d'enfants moins chers et de résoudre la crise des soins aux personnes âgées. Du côté de la coalition, Scott Morrison a fait des promesses pour faire appel aux parents, promettant d'aider à assurer la sécurité des enfants lorsqu'ils utilisent leur appareil numérique. Les travaillistes veulent offrir des services de garde d'enfants plus abordables et de meilleurs soins aux personnes âgées. Écoutez Anthony Albanese expliquant pourquoi son parti devrait être élu.
You can choose a government that honors your values and rewards your hard work. A government that holds no one back and leaves no one behind.
Les travaillistes ont profité du lancement de la campagne dimanche pour présenter leur politique d'accessibilité au logement où le gouvernement rachète jusqu'à 40% du coût d'une nouvelle maison et jusqu'à 30% pour une maison existante. Environ 10 000 ménages australiens pourraient accéder au programme d'aide à l'achat d'une maison s'ils gagnent un revenu pouvant atteindre 90 000 $ pour les célibataires ou 120 000 $ pour les couples. Le Premier ministre Scott Morrison s'inquiète du fait qu'un gouvernement ait des capitaux dans une propriété personnelle. Et le chef des Verts, Adam Bent, soutient que le programme proposé par le Parti travailliste est trop limité pour les acheteurs.
Labour has called their plan Help to Buy, but it should be called Hard to Get because only about 5% of first home buyers will be able to take advantage of it. And the scheme may in fact contribute to pushing up house prices. Nothing that Liberal or Labor are offering will tackle runaway house price rises in this country.
Scott Morrison espère pouvoir mieux gérer la sécurité en ligne en ordonnant à l'industrie de concevoir des paramètres pour protéger les jeunes sur les smartphones et les tablettes. Si la coalition est réélue et que les entreprises technologiques n'améliorent pas les garanties, le gouvernement les obligera à se conformer à la loi. Et Scott Morrison affirme que les géants de la technologie ont la responsabilité de minimiser les risques.
And we need to be ensuring that the online world, the digital world, is a safe place for Australians. The rules of the real world must apply in the digital world. And everywhere that we can act as a government to ensure that that is the case, we will do it.
Au cours du week-end dernier, les soins de santé sont restés fermement à l'ordre du jour, les travaillistes s'engageant à renforcer le système Medicare et après la promesse des libéraux de réduire les médicaments dans le cadre des bénéfices pharmaceutiques, le Parti travailliste a révélé une réduction de $12.50 pour les patients si le parti remporte les élections. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg a lancé sa campagne dimanche dans la bataille pour conserver le siège de Kooyong alors qu'il se présente contre la candidate indépendante Monique Ryan qui pourrait le battre selon les sondages. Mademoiselle Ryan et le trésorier participeront à un débat sur Sky News le jeudi 12 mai. Enfin, un nouveau sondage montre que le Parti travailliste a une bonne avance à mi-parcours de la campagne électorale. Dans le sondage réalisé par Resolve Strategic pour les journaux Sydney Morning Herald et The Age, le vote primaire du Parti travailliste s'est maintenu à 34%, tandis que celui de la coalition a chuté de 35 à 33%. Sur une base des votes préférentiels, le Parti travailliste mène 54% à 46% pour la coalition libérale Parti national. Le leader travailliste Anthony Albanese n'est pas le premier ministre préféré, mais il a réduit l'écart depuis le dernier sondage. Les Verts, le parti One Nation, le United Australia Party ont augmenté leur vote primaire depuis le dernier sondage. Resolve Strategic affirme que plus des trois quarts de l'électorat ont déjà décidé pour qui ils voteront le 21 mai prochain. Ce dossier de Stéphanie Corsetti et Shubha Krishnan pour SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Cuisinez-vous avec des ingrédients autochtones australiens comme la saltbush, l'émeu ou le kwandong? Malgré que ce soit des ingrédients délicieux, locaux et uniques à l'Australie, on les retrouve beaucoup plus souvent dans les grands restaurants que dans nos cuisines. Une chose que veut changer la chef Norni Béraud avec son nouveau livre de recettes. Depuis plusieurs années, la chef Norni Béraud, qui est originaire des îles du détroit de Torres, veut populariser la cuisine et les ingrédients autochtones d'Australie. Elle l'a d'abord fait avec son café Mabou Mabou à Yarraville, puis avec son restaurant Big Esso au centre-ville de Melbourne. Elle passe maintenant à la vitesse supérieure avec un livre de recettes qui nous encourage à cuisiner avec des ingrédients autochtones à la maison.
I wanted to put my Torres Strait Islander culture on the map, you know, and talk about Indigenous cuisine itself, you know, and how we do have that because it's not really talked about, you know, it's not really talked about that we have our own cuisine. And when I first opened the cafe up, you know, a customer said to me, oh, I didn't know it, Indigenous people had cuisine. And I thought that that was weird, you know, that the thought process that like what, and that my response was, well, we've got to eat. This book is a little bit about, you know, showcasing on how amazing our cultural upbringing is and the food that we grow up with.
Le livre Mabou Mabou, an Australian Kitchen Cookbook, est paru plus tôt cette année. Norni Béraud espère qu'il aidera à rendre les ingrédients autochtones plus accessibles.
I got sick of the idea of people thinking that, you know, indigenous flavors and ingredients are superfoods. You know, anything's a superfood these days. You can have anything with a superfood label on it. And I want to make sure that this ingredient that is natural to Australia is affordable for everyone, you know, and everyone that is of all generations, you know, and whatever income bracket you are in, to be able to enjoy it, because we are all Australian and we should be eating more of this. And it should be for people at home. It shouldn't just be that you have to have a bit of coin in your pocket to sit at one of these fancy restaurants.
Le livre contient des recettes, bien sûr, mais aussi un guide des ingrédients australiens. Norni Béraud a plusieurs favoris quand vient le temps de cuisiner avec des ingrédients autochtones.
I love saltbush. It's in my top five. I'm a succulent girl, so I love all succulents from Kakala, Samphire, Sea Blythe, the Arigetti, all of the beautiful, like, kind of sea succulents are really, because they have these natural saltiness and they're great in stir fries and stews and stuff like that. But when it comes to the dry stuff, I'm a giant pepperberry fan. You know, saltbush right up there on the dried and the fresh, because they're just like so unique. But then wattle seeds as well is like in my top five. But I also love river mint, fresh and dried, because of beautiful freshness. And it always reminds me of fresh mint, you know. You know, when you brush your teeth and you have that beautiful, like, minty flavor. Well, I always think of that when I have fresh river mint. And but I also really love strawberry gum. I don't know. I have a lot. I have a lot of favorites that are across the board, like, you know, and that's just in the native, like, sort of spices and vegetables.
Les Warrigal grains sont idéales pour les débutants qui peuvent simplement les substituer pour des épinards dans leur recette.
Grows like wildfire, and it's our natural spinach, you know, to Australia. Holds itself really well. You don't have to use a lot of it. It's almost in between like English spinach and silver beet. So it holds itself really well. Doesn't have that metallic taste that you have to worry about.
Même si les ingrédients autochtones sont de plus en plus accessibles, ils sont encore parfois difficiles à trouver. On vous conseille de chercher du côté des marchés fermiers et boutiques en ligne. Et nos libéraux conseillent de simplement faire la demande pour ces ingrédients où vous faites habituellement vos emplettes.
More and more of our local grocers can get native ingredients from market, you know, and all you have to do is ask for it. Go to market every day. They see this stuff that's there. They can pick it up for you. You just have to ask them to get it for you. You know, the more that we ask for native ingredients on our shelves, the more it will be there.
Et comme les ingrédients autochtones sont parfaitement adaptés pour notre climat et nos conditions, vous pouvez aussi les cultiver dans votre jardin avec succès.
Grow what is really good for your area. So wherever a part of you are around Australia or Victoria, always grow what that can grow in this beautiful environment that we've got down here. You know, sea succulents and all those kind of things grow really well down here, obviously, especially cacala and pig face, you know, those kind of things all grow really well down here. Warrigal greens grows really beautifully down here. Finger limes, they can grow down here. Wattle seeds.
Parmi les recettes préférées de Nornibéro, il y a le poulet sémur, l'émeu cuit sur le barbecue et le damper, un type de pain.
The damper is one of my favorites. It's an easy bread and it is the only bread I grew up with as a kid because we didn't get Wonder White bread. Any sliced kind of bread growing up. And it's a good way to introduce the native ingredients into your bread as well. So I recommend, you know, making damper because it's one of the key things that made me who I was. And it's the first thing I ever cooked growing up as well. And it always reminds me of my dad. So I can't go past, like, you know, the pumpkin damper and the wattle seed damper, you know, and Indigenous people have been making bread out of wattle seeds and all that for you know, thousands of years, grating it on the rocks and, you know, and stuff like that. So it's one of those good things that I think, you know, that I really love about bringing into the book is that, you know, you can make damper be delicious in many different ways.
Une autre manière facile d'incorporer des ingrédients autochtones à vos repas, du beurre aromatisé.
Who doesn't like butter? You know, and even if you're a vegan, you know, I use a lot of vegan butter and making butters are the easiest things to add your ingredients into so that you can get those flavors out of it, you know, and I think that's one thing why I put it in there is to make, see, the dishes in there are to make it easy for you to cook at home. They're not complicated. I don't want to make something complicated where you're looking at it and you're going, oh my God, I don't know what to do there. You know, I want you to be able to enjoy the native flavors without thinking about all the hard work you got to do before you get there, you know, and I'm all about, you know, having people over and wanting to be generous and sit down with them, not cook slaving over a stove and then like, oh God, now I have to cook all the food. No, that's not who I am. You know, I want it to be easy and relatable.
Le livre Mabou Mabou, An Australian Kitchen Cookbook de Nornibéro est en vente chez tous les bons libraires et sur le site maboumabou.com.au.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'histoire. Pour cela nous avons avec nous Patrick Lewellin, avec qui nous sommes en liaison depuis Trouville en Normandie. Bonjour Patrick.
Bonjour Grégory.
Alors Patrick, vous êtes historien amateur, vous passez beaucoup de temps dans des bibliothèques, dans des salles d'archives pour retrouver des documents perdus ou parfois oubliés. Et justement, tout récemment, vous avez mis la main sur une carte que personne n'avait jamais vue, dont personne n'avait connaissance, en tout cas en Australie, qui remonte aux origines de la colonisation du pays par les Britanniques. Et à un moment vraiment clé dans le début de cette histoire européenne en Australie, c'est la cartographie du continent par deux explorateurs, d'un côté l'anglais Matthew Flinders et de l'autre Nicolas Baudin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la carte sur laquelle vous avez mis la main ?
Alors, c'est une carte sur laquelle j'ai mis la main dessus dans mes recherches sur Baudin à la Bibliothèque nationale de France. C'était en 2015 déjà. C'est une carte qui a été apportée en Australie en 1911, au moment de la création de Canberra, par le comte Alphonse de Fleurieu. Et le comte Alphonse de Fleurieu était le descendant de l'organisateur des expéditions d'entre Castaud et de Baudin. Donc Baudin, c'est 1800-1804, une expédition géographique envoyée en Australie par Bonaparte.
Ouais.
À l'époque.
Et Fleurieu, d'ailleurs, précisons qu'il y a en Australie une péninsule Fleurieu qui est nommée en hommage à ce monsieur. Donc.
Et justement, cette péninsule apparaît sur cette carte. C'est un retour au nom français à la place d'un nom anglais qui a été accordé en 1911 à Fleurieu et donc à la France. Alors pourquoi Fleurieu est-il venu avec cette carte ? Eh bien, il est venu parce qu'il voulait faire rétablir un certain nombre de noms français, c'est-à-dire des endroits qui avaient été découverts par l'expédition Baudin en Australie du Sud et en Victoria, et donc qui avaient été effacés parce que quand l'expédition Baudin est rentrée, le capitaine Baudin étant mort, ses subordonnés ont évidemment dessiné la carte de l'Australie. C'est d'ailleurs la toute première carte complète des côtes de l'Australie qui a été publiée. Elle n'a pas été publiée en Angleterre, hein, elle a été publiée en France en 1811, donc en plein Empire français. Mais les dessinateurs, donc Freycinet pour l'officier, se sont permis de donner des noms, dont français, à des endroits qu'ils n'avaient pas découvert les premiers. C'était Matthew Flinders, commandant de l'expédition britannique au même moment, qui était passé le premier et qui donc avait le droit de donner des noms anglais. Le problème, c'est que Freycinet, en dessinant cette carte de 1811, s'est permis d'appeler toutes les terres qui vont depuis le golfe de Spencer jusqu'à aujourd'hui Melbourne à peu près, terre Napoléon. Vous imaginez la tête des Anglais en 1811, en pleine guerre napoléonienne. Donc comme nous avons perdu la guerre, bien entendu, en fait, toute la nomenclature française a été éliminée et remplacée par une nomenclature anglaise. Fleurieu, en 1911, profitant du fait que la création de Canberra allait nécessiter une refonte des cartes australiennes, est venu en demandant « Attendez, il y a quelques noms qui, objectivement et scientifiquement, doivent revenir à la France. » Donc il est revenu avec sa carte, corrigée à la main en rouge, et il a obtenu un certain nombre de noms retour à la France, dont celui que vous venez de citer, la péninsule Fleurieu. Voilà. Et donc c'est cette carte, et ses papiers, ses lettres, sa correspondance, il est allé en Australie en 1911, il est rentré en 1913, il a fait une communication à la société de géographie auquel il appartenait, et ensuite il a versé ses cartes aux archives, et elles ont été totalement oubliées depuis. Et quand je le dis, je l'ai vérifié, puisque j'ai demandé à la National Library of Australia s'ils connaissaient la carte, et on m'a répondu, elle est totalement inconnue. On connaît l'histoire de Fleurieu qui est passée, mais nous n'avons connaissance ni de la carte, ni de ses papiers. Voilà.
D'accord, et du coup, vous, en tant que découvreur, ou plutôt redécouvreur de cette carte, les autorités australiennes auxquelles vous avez eu affaire qui vous disent cette carte, on l'avait complètement oubliée, et on savait à peine d'ailleurs qu'elle avait existé. Est-ce qu'ils ont, j'imagine, manifesté un intérêt ? Est-ce qu'ils souhaiteraient en avoir au moins une copie ou peut-être même l'exemplaire original pour la mettre dans un musée ? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer suite à cette découverte ?
Alors, un intérêt certain, parce que l'expédition Baudin, historiquement parlant, est extrêmement importante pour l'histoire de l'Australie. Et cette histoire de nomenclature entre les Français et les Anglais a duré très longtemps. Les expéditions françaises après les guerres napoléoniennes, je ne sais pas si vous le savez, se sont poursuivies avec l'intention du gouvernement français, donc de la restauration hein, de Louis XVIII et de Charles X après Napoléon, avaient l'intention de créer une colonie pénitentiaire à l'ouest, dans la région d'Albany aujourd'hui, à King George Sound. Ça a duré jusqu'en 1824-26. Donc vous voyez que ça a continué. Et cette carte est l'ultime avatar, en fait, l'ultime péripétie des 8 expéditions scientifiques françaises qui se sont succédées en Australie entre 1772 et 1826. Donc elle est importante historiquement, et évidemment, il faut qu'on l'étudie de façon systématique, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais faire ici et en collaboration avec la Bibliothèque nationale australienne. Et ensuite, en 2023-2024, je vais venir en Australie, on va montrer cette carte. Alors, je ne sais pas encore si on montrera une copie grandeur nature ou la carte originale, parce qu'il n'en existe qu'une, et la faire sortir de la Bibliothèque nationale de France, l'emmener en Australie, la faire tourner pendant 6 mois, etc. C'est un petit peu compliqué, mais on va essayer quand même. Et on va la montrer, on va montrer ce qui s'est passé en la mettant pour le grand public à côté des cartes qui ont été dessinées par les Français, qui ont été dessinées par Flinders, et celle qui a été qui est devenue finalement la carte officielle de l'Australie à partir de 1811, et on va raconter toute cette histoire.
Je reviens par rapport à cette question de la correction de certains noms sur la carte officielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous citiez notamment le cas tout à l'heure de la péninsule Fleurieu. Par rapport à cette carte avec, vous m'avez envoyé une copie, il y a des ratures en rouge et puis des noms à la place écrits par-dessus. Est-ce que toutes les consignes, les indications indiquées par les Français sur cette carte ont été suivies par les autorités australiennes ou est-ce qu'il y a quelques noms que les Australiens ont dit bah non, on va garder le nom anglais, ça on n'accepte pas? Ou est-ce que tout a été pris en compte?
Alors, tout a été examiné, tout n'a pas été obtenu. Effectivement, vous avez raison. En fait, dans la carte que nous montrerons quand nous viendrons en Australie, le fond, c'est la carte officielle de l'époque, de 1910, c'est-à-dire celle qui est fondée sur l'expédition Flinders. En rouge, Fleurieu avait marqué à la main les noms dont il estimait que ça revenait à Baudin, parce que Baudin était passé le premier. Et ça, c'est fondé sur une carte française de 1824. Et ensuite, si on regarde bien, il a souligné en noir, sur ces rouges-là, il y a des rouges soulignés en noir, qui sont celles dont il se disait qu'il avait une chance d'obtenir le retour. Et c'est une partie seulement de ces noms qui ont été demandés qui sont revenus à une nomenclature française. Mais justement, pour l'instant, personne ne sait exactement lesquels. Et c'est fait partie du but du jeu des études qu'on va faire de façon systématique. C'est-à-dire qu'on va vérifier effectivement lesquels ont été attribués suite à la visite d'Alphonse de Fleurieu. Et donc, lesquels, dans la carte d'aujourd'hui, sont issus de cette ultime correction cartographique des expéditions françaises de 1911-1913.
Précisons que pour la poursuite de ces recherches, je rappelle, vous êtes historien amateur, vous n'êtes donc pas salarié ou payé pour mener ce type de recherche, vous le faites parce que c'est votre passion et que, évidemment, ça prend du temps et ça coûte aussi un petit peu d'argent, surtout s'il y a des déplacements entre la France et l'Australie et vous êtes à la recherche de sponsors pour financer tous ces travaux.
C'est exact. Les besoins financiers ne sont pas colossaux, mais enfin, ils existent quand même. Et donc nous recherchons, alors quand je dis nous, c'est que cette étude est faite par un volet français et un volet australien. Le volet français, c'est moi, c'est nous, c'est l'Institut Nicolas Baudin. Et côté australien, c'est le Silent World Foundation, qui est une fondation australienne de recherche archéologique maritime et de recherche tout court sur l'histoire des contacts entre Australiens. Et entre Européens et Aborigènes au début de l'histoire australienne et de recherche sur les expéditions européennes en Australie. Ça, c'est le volet australien, donc on est tous les deux à travailler là-dessus. Et nous cherchons ensemble quelques sponsors de façon à ce qu'on puisse tranquillement mener à bien cette étude, qui est une étude à plein temps pendant un an quand même, hein. Et effectivement, les déplacements qui seront nécessaires pour venir montrer tout ça en Australie l'année prochaine, si tout va bien. Et donc, ce que nous visons, ce sont évidemment des sociétés australiennes qui s'intéressent à la France ou qui ont des intérêts français, et des entreprises françaises qui ont des intérêts en Australie.
Grégory Pless qui recevait Patrick Elwin, passionné d'histoire australienne. Tout de suite, on fait un hommage à cette artiste française, Régine, qui a marqué toute une époque en France. On écoute son portrait sur SBS.
Pour Régine, la notoriété commence en 1956. Elle ouvre une boîte de nuit rue du Four à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le club chez Régine reçoit les personnalités les plus en vogue du moment, François Sagan, Serge Gainsbourg, Yves Saint-Laurent, entre autres. Forte de ce succès, elle va fonder ensuite un véritable empire, en tout une trentaine d'établissements à travers le monde. Parallèlement, Régine s'essaye avec succès à la chanson en interprétant des titres écrits spécialement pour elle par de grands auteurs, et qui sont parfois devenus des tubes comme la Grande Zoa ou encore les Petits Papiers.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler?
Régine a publié une dizaine d'albums entre 1966 et 2009. Au cinéma, elle a fait quelques apparitions dans les années 70 et 80, notamment dans Les Ripoux de Claude Zidi. Régine a raconté son parcours dans ses mémoires publiées en 1996 sous le titre « Appelle-moi par mon prénom ».
C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps.
« Le rappel des titres de ce mardi 3 mai, le Premier ministre Scott Morrison rejette l'idée selon laquelle une hausse des taux d'intérêt pourrait lui porter préjudice le jour du scrutin. Un nouveau rapport du Climate Council nous informe que des conditions extrêmes, de météo extrême, pourraient menacer une maison australienne sur 25 et l'évacuation d'une centaine de civils compliquée. Dans l'est de l'Ukraine le week-end dernier, les autorités espèrent pouvoir continuer dans les prochains jours à envoyer des personnes vers Zaporijjia, au nord-ouest du pays.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.